La lettre d'un auditeur me permet d'enchaîner aujourd'hui avec la notion de liberté et de choix que nous avons déjà évoquée lundi dernier. Cet auditeur m'écrit « Depuis quelque temps, une question me préoccupe et m'obsède et je vous serais très reconnaissant si vous vouliez bien me donner vos impressions à ce sujet. Actuellement, j'ai la foi et cela m'aide beaucoup dans le combat continuel que nous menons. Mais dans 15 ou 20 ans, par exemple, aurais-je encore la foi ? Dieu seul le sait. Et moi, j'avoue humblement n'en rien savoir malgré toute ma sincérité présente. J'en déduis donc qu'actuellement je suis peut-être perdu, tout en paraissant sauvé. Et cette pensée est affreuse. N'est-il pas dit que ceux qui sont sauvés sont connus du Seigneur depuis la fondation du monde? En conséquence, avant même de naître, nous sommes sauvés ou condamnés. Suis-je dans l'erreur? Cette lettre si spontanée et si sincère m'a beaucoup touché, car elle exprime bien le désarroi et la préoccupation de son auteur. Nous avons choisi d'y répondre parce que nous sommes persuadés que de nombreux auditeurs se sont déjà posé cette même question, à quelques nuances près. Dieu a-t-il décrété d'avance, dès avant la fondation du monde, le nombre et l'identité des sauvés et des condamnés? Telle est essentiellement la question qui nous a été posée et qui va nous permettre de nous entretenir ce matin de cette vieille question de la prédestination. Il est évident que nous traiterons cette question comme toutes celles que nous présentons à cette émission à la lumière de la Bible. Empressons-nous de dire que rien dans la Bible ne permet de soutenir la théorie selon laquelle Dieu aurait déjà décidé du sort final de chaque créature. Pourtant, dans la Bible, il est question de prédestination. Et on voit qu'il est nécessaire de définir ce terme à la lumière de la Bible, c'est-à-dire en le confrontant aux différents textes concernant le salut de l'homme. Il y a un enseignement biblique qu'on peut classer sous la rubrique prédestination. Elle est intimement liée, cette prédestination, à l'idée d'élection et de choix. L'appel des prophètes, par exemple, est toujours une des formes de la libre élection divine. Par exemple, Ésaïe dira « L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, dès le sein il a prononcé mon nom ». Parallèlement, l'apôtre Paul dit que Dieu l'avait déjà mis à part pour son service dès le sein de sa mère. Mais ce sont là des cas exceptionnels qui ne peuvent pas s'appliquer au salut de chaque créature en particulier. De même, le choix d'un peuple par Dieu, qui deviendra le peuple élu, est aussi une expression de la libre élection de Dieu. Pourquoi a-t-il choisi les Juifs plutôt que les Hittites ou les Égyptiens? Nul ne le sait. Dieu l'a voulu ainsi. Mais le choix de ce peuple répondait à un besoin, ou plutôt, il constituait un instrument, un moyen de Dieu pour son plan dans le salut des hommes. En effet, jusqu'à présent, les prophètes, le peuple élu, ne sont encore que des préfigurations du prophète que sera le Christ et du peuple élu que sera l'Église, c'est-à-dire l'assemblée des chrétiens. Or, c'est de ces chrétiens que nous nous occuperons particulièrement. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont les appelés, ou les élus. Ce sont les élus de Dieu ou les élus de la grâce. Et nous pouvons noter que ces deux expressions semblent nettement indiquer qu'il n'y a aucun mérite personnel dans l'œuvre de la rédemption. Celle-ci est une expression de miséricorde et de grâce. Elle commence, se prolonge et se finit en Dieu, par Jésus-Christ. Mais nous verrons plus tard que ce salut par Jésus-Christ ne s'impose pas à l'individu. Il se présente sous la forme d'un enseignement et d'une invitation. Prêchez la bonne nouvelle, dit le Christ à ses apôtres. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'idée de prédestination, non pas la théorie humaine, mais l'enseignement strictement biblique, est clairement exposée dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce verset ne fait que nous révéler le dessein de Dieu qui destine tous les hommes à un rôle béni. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et c'est là la raison d'être de toute prédication de l'Évangile, qui a pour but de remplacer en l'homme l'image du péché par l'empreinte du Christ. Paul exprime la même pensée aux Corinthiens. Il s'associe à leur souffrance dans leur corps mortel et à leur désir de quitter ce corps afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Et il ajoute, « Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. » Autrement dit, c'est à cela que nous avons été destinés. Telle est en quelque sorte l'ambition de Dieu à notre égard. Ce qu'il a vraiment retenu à soi, il faudrait que le monde fût reviré plutôt 1000 fois avant qu'un de ses élus de Dieu périt. Cela ne peut se faire. Cette citation n'est pas un verset de la Bible. C'est la théorie d'un homme. Dieu aurait donc décidé, depuis la fondation du monde, du sort final de chaque créature, par un décret implacable, un verdict définitif, antérieur à la chute et de toute éternité. On conçoit aisément les dangers d'un tel extrémisme qui frustre l'homme de sa liberté. L'homme n'est plus responsable de ses actes, puisqu'ils ont été voulus et décrétés à l'avance. En outre, cette théorie rend Dieu prisonnier de ses décisions. Cette forme de prédestination ressemble dangereusement à un fatalisme. Le message biblique ne fait que souligner, au contraire, la liberté et la responsabilité individuelle. « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », dira l'apôtre Paul à l'église de Philippe. « Courez de manière à remporter le prix ». C'est le message que reçoit l'église de Corinthe. Et ces deux passages doivent déjà tranquilliser notre correspondant, qui se demande s'il est utile de persévérer dans sa foi, ne sachant pas si Dieu a décrété son salut ou sa condamnation. Pierre dira encore que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'apôtre Paul lui-même, quoique appelé de Dieu par excellence, n'était pas certain de son salut. « Je traite durement mon corps », écrit-il, c'est-à-dire « je m'impose une rude discipline, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres ». Le salut est donc affaire de persévérance, d'endurance et de travail. Chaque chrétien étant à la merci d'une rechute. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Nous pouvons donc affirmer avec la Bible que Dieu offre gratuitement le salut qu'il a préparé d'avance et auquel il prédestine tous les hommes, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais libre à eux de l'accepter ou de le rejeter. De ces deux attitudes dépendent respectivement l'élection et la réprobation. Partout dans les Écritures, Dieu fait appel à la liberté de l'homme et aux conditions qu'il doit remplir pour arriver jusqu'à lui. L'apôtre Pierre déclare que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Or, si Dieu a déjà prononcé un verdict définitif en faveur des uns et condamnant les autres, cette déclaration apostolique est incompréhensible. Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La participation de l'homme au salut de Dieu est donc réelle. C'est-à-dire que l'homme doit répondre par une attitude bien déterminée à l'invitation de Dieu. Car on ne peut pas concevoir Dieu sauvant l'humanité contre son gré. Il faut toutefois insister sur le fait que c'est la grâce de Dieu qui nous offre le salut. Rien de ce que nous faisons ou pouvons faire ne constituera jamais une œuvre de mérite. Par la foi, la repentance et le baptême, nous ne faisons que nous vêtir des mérites du Christ. Lui seul est notre gloire. Aux Galates, l'apôtre Paul dira « Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ ». Pour conclure, nous dirons que dans la Bible, l'idée d'élection est surtout associée à l'œuvre historique de Dieu dans l'histoire humaine. Tout particulièrement dans l'histoire d'Israël. Cette élection, cette prédestination, n'est pas un décret qui fixe irrévocablement le sort éternel des individus. L'homme reste libre, et Dieu respectera cette liberté jusqu'au bout. Le Créateur a quelquefois pris des décisions, et particulièrement vis-à-vis du peuple élu, qui semble compromettre son impartialité. Mais Paul va à l'encontre d'un jugement hâtif de l'homme par ces mots « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Cette remarque n'admet en effet aucune réplique. De toute manière, Jamais l'intervention de Dieu n'a violé la volonté de l'homme au point de le conduire malgré lui, soit au salut, soit à la damnation. En outre, ce que la prédestination nous apprend, c'est que tout chrétien doit reconnaître la souveraineté absolue de Dieu. Les œuvres de sa foi ne sont méritoires en aucune manière, car sa vie chrétienne ne se réduirait qu'à une vulgaire comptabilité des bonnes actions. Elle constitue néanmoins un devoir, un culte exigé par Dieu, mais qui se donne spontanément, comme un fruit naturel et saint de la foi.